France Inter.
Aujourd'hui, une petite histoire des nombres racontée par
Étienne Gis, mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Et il y a plus de 100 ans, un jeune enfant indien vivant dans une famille très pauvre adorait les maths. Il pensait aux nombres seuls, sans maître et sans livre. Il écrivit alors ses idées mathématiques à Godfrey Harold Hardy, un professeur célèbre à Cambridge en Angleterre. Le professeur l'invita dans son université et ils devinrent collaborateurs. Ils firent tous les deux de grandes découvertes en théorie des nombres. Un jour, le jeune Indien tomba malade. Hardy lui rendit visite à l'hôpital et en arrivant dans la chambre, il dit d'ailleurs sans trop y penser qu'il était venu dans un taxi dont le numéro était 1729. Le jeune Indien répondit « Comme ce nombre est intéressant ». Le professeur fut surpris et demanda pourquoi. La réponse vint immédiatement « Eh bien parce que c'est le plus petit nombre qui peut s'écrire comme la somme de deux cubes de deux manières différentes ». L'Indien avait raison. Hardy demanda à notre jeune mathématicien comment il pouvait le savoir sans réfléchir. La réponse est incroyable. Il considérait les nombres comme ses amis, tout simplement. Et il connaissait ses amis. Pour lui, c'était tout simple. Il s'appelait Sniri Vasa Ramanujan. Il décédera en 1929, à l'âge de 32 ans. Un certain nombre de ses cahiers sont encore célèbres. Ils contiennent beaucoup d'énoncés mathématiques non démontrés qui attendent des preuves. Ramanujan avait une dévotion particulière pour la déesse Namagiri, qui l'aurait inspirée. Selon lui, une équation n'a de sens que si elle exprime la réflexion de Dieu. Voici la manière dont il a écrit « Décrit l'un de ses rêves. Pendant mon sommeil, j'ai vécu, écrit-il, une expérience inhabituelle. Il y avait un écran rouge formé, pour ainsi dire, par du sang qui coulait. Je le regardais et soudain, une main commença à écrire sur l'écran. Cette main a écrit un certain nombre d'intégrales elliptiques. Elles sont restées gravées dans mon esprit. Dès mon réveil, je les ai recopiées. » Ramanujan est loin d'être le seul à entretenir des liens personnels avec les nombres et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Étienne Gis.
Bonjour, bonjour.
L'histoire de ce jeune Indien, elle figure dans votre nouveau livre « Ma petite histoire des nombres » qui sort chez Odile Jacob. Est-ce que comme Ramanujan, vous avez aimé les nombres très très tôt ?
Hélas non. C'est assez étonnant, donc j'écris ce livre sur les nombres et sur ma perception personnelle des nombres, qui n'est pas du tout atypique comme celle de Ramanujan. Et en fait, moi, mes amours sont plutôt géométriques. Mmh. Mais j'ai pensé que souvent, les gens pensent que mathématiques et calculs et nombres, c'est un peu la même chose. Puis comme j'aime bien parler aux gens, eh ben, j'ai plutôt, dans ce cas particulier, parlé dans ce livre de nombres. Dans le livre précédent, j'avais parlé de ballon de football, donc j'avais parlé plus de géométrie.
Ouais, et de flocons de neige aussi précédemment.
Flocons de neige,
on en avait parlé dans cette émission. Quand même, vous avez aimé tout les mathématiques, Étienne Gis.
J'aime tout.
D'ailleurs, votre livre, vous le rendez hommage à un maître du CM2 quand même.
Donc, exactement.
Ça vient tôt. Hein.
J'aime tout dans les mathématiques, en effet.
Monsieur Achille, c'est ça ?
Monsieur Achille, je lui rends hommage.
Mais
je suis tellement heureux de pouvoir le faire aujourd'hui, devant un micro de la radio nationale.
Est-ce qu'il vit encore pour vous entendre ?
Je n'en sais rien.
Ouais.
Je n'en sais rien.
Pourquoi est-ce que c'est lui qui vous a donné le goût des maths ?
Alors, j'ai une petite anecdote que je raconte souvent. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais enfin, c'est peut-être un souvenir reconstruit, j'en sais rien. Monsieur Achille demande à la classe quel est le polygone qui a le plus de côtés. Alors, les élèves commencent à faire un peu, vous savez, des mots compliqués. Il y en a un qui dit l'hexagone, l'octogone, le nonagone, ils commencent dodécagone, etc. Et moi, sans y réfléchir, franchement, sans y réfléchir, je dis le cercle. Et là, je me souviens avec netteté du sourire du maître. Et je me souviens de mon plaisir personnel, qui était un mélange de plaisir de ma découverte, peut-on dire, de l'infini, pour le dire rapidement, et puis le plaisir de faire plaisir au maître. Mmh. Et voilà, j'ai trouvé que c'était... Donc ça, c'est un des moments que j'ai pas oublié, où le maître a été utile pour moi.
Vous dites qu'il y a un livre aussi très tôt qui a compté pour vous, à l'âge de 14 ans. Vous citez souvent un ouvrage, c'est Les grands mathématiciens, c'est une histoire
oui.
dont
alors
des
ça,
figures.
C'est une histoire intéressante qui peut aussi... intéresser les vulgarisateurs, c'est que ce livre qui s'appelle homme de mathématiques, ou man of mathematics. Ce livre, ben, je vous dis la vérité, il n'est pas bon. Quand je le lis aujourd'hui, j'y vois des recettes de cuisine, j'y vois des pinsommes, j'y vois des choses qui n'ont pas de valeur historique. Cependant, eh bien, ce livre, il m'a influencé. Voilà. Donc, je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse un peu à la question de savoir si un livre qui est destiné au grand public ou encore plus aux enfants, est-ce qu'il est si nécessaire que ça, qu'il soit à ce point professionnel.
Bah, d'ailleurs, vous dites qu'il y a plein de mathématiques aujourd'hui qui sont inutiles pour monsieur et madame tout le monde. Hein. Voilà. C'est pas la peine de s'encombrer avec des mathématiques contemporaines auxquelles personne ne comprend rien, à part les spécialistes du genre, quand même.
C'est le but que j'ai essayé de suivre dans ce livre, c'est de ne pas m'adresser à mes collègues. Mes collègues, s'il y en a qui m'écoutent, fermez la radio.
Oh, mais c'est pas pour eux, c'est clair que de toute façon, le livre n'est pas pour eux.
Exact, il n'est pas pour eux.
Votre héros s'appelle Henri Poincaré, Étienne
Gis. Oui, depuis très longtemps.
Alors pourquoi, pour ceux qui ne le connaissent pas
Henri Poincaré, ce qui m'a toujours impressionné, c'est qu'il est beaucoup plus proche de l'intuition que de la rigueur. Il fait des erreurs, souvent, mais ça ne le dérange pas trop, il avance. Il avance souvent avec des méthodes complètement intuitives, et c'est ça que j'aime chez lui.
Et ça, c'est une qualité en mathématiques, d'être plus intuitif que rigoureux ?
Selon moi, oui.
Ah ouais ?
Selon d'autres, non.
Mais c'est une extraordinaire liberté, alors.
C'est une grande liberté. Vous savez, le monde des mathématiques est très, très immense, et on peut l'aborder de nombreuses façons différentes. Certains mathématiciens y arrivent de manière extrêmement précise et rigoureuse, et puis il y en a qui vont franco, là, qui prennent la machette et qui ouvrent une tranchée dans la forêt. Quoi.
Ouais. Mais justement, puisque vous parlez de forêt, certains vont s'interroger sur votre présence dans une émission où on parle surtout d'écologie, dorénavant, hein, même si on a eu une histoire scientifique à laquelle vous avez participé, Étienne Gis. Si on doit établir justement un pont entre les mathématiques et la nature, il y en a quand même.
Alors, il y a beaucoup de ponts, et qui malheureusement, peut-être qu'on peut en parler un peu aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas suffisamment, me semble-t-il, pris en compte aujourd'hui dans l'enseignement des mathématiques.
Parce qu'ils l'ont été, c'est ce que vous racontez aussi.
Ils l'ont été jadis. Disons que, pour moi, la mathématique est née de la nature.
C'est-à-dire précisez là-dessus, s'il vous plaît.
Si on regarde un peu, même l'origine, parce qu'on parle des nombres et de la géométrie de base, on dit en général, c'est encore une simplification, que la géométrie et le calcul sont nés en Égypte lorsque les savants égyptiens devaient mesurer la superficie de leurs champs qui étaient chaque année envahis par les crues du Nil et qu'après il fallait les redessiner, calculer leur superficie, etc. Donc en quelque sorte, la géométrie est issue de questions extrêmement concrètes. Et puis après, si on prend quelques siècles plus tard, on arrive par exemple chez Euclide, qui a écrit ce livre majeur, qui est une espèce de bible pour les mathématiciens, les éléments d'Euclide. Mais quand on lit ce livre d'Euclide, on est totalement déconnecté de la nature. Quand il parle d'un cercle ou d'un carré, jamais il ne dira que c'est un champ, c'est un carré ou un cercle. Et puis, quelques temps plus tard, il y a Archimède qui arrive. Et Archimède, lui, dès le début, mélange ce qu'on appellerait aujourd'hui le pur et l'appliqué. En même temps, c'est un très, très, très grand géomètre abstrait.
Il va nous dire des choses essentielles. Hein,
il va dire des choses
sur la nature.
Essentielles. Et puis, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de guerre et de militaires, c'est aussi lui qui invente des armes, des outils pour faire la guerre contre les Romains. Donc il y a cette...
Qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs de plus important sur la nature à votre avis, Archimède ?
Je vais encore faire quelques siècles plus loin, par la suite c'est Galilée qui arrive, et Galilée dit « la nature est écrite dans la langue mathématique ». Après, les gens en ont tiré des conséquences selon lesquelles la mathématique n'est jamais qu'une langue pour exprimer un monde naturel. Alors on peut en discuter, les philosophes en débattent beaucoup. En tout cas,
c'est quoi votre réponse à vous, en tout cas ?
Moi, je suis tout à fait, comme on dit, platonicien, c'est-à-dire que je suis profondément, intimement persuadé que le monde mathématique a une certaine existence supranaturelle, mais une existence dans laquelle on travaille, on avance. Il y a des choses à découvrir et non pas à inventer.
Et c'est vrai que vous racontez qu'on a, jusqu'à assez récemment, dans les années 60, hein, fait ce parallèle entre la nature et les mathématiques, et qu'on l'a abandonné petit à petit dans l'enseignement.
Oui. Il y a un exemple que je trouve intéressant, je ne crois pas que je le cite dans ce livre, c'est une conversation que j'avais eue avec deux grands mathématiciens. L'un, c'était Jean-Pierre Serre, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, et l'autre, c'était Jean-Pierre Kahan, aussi un très grand mathématicien. Et Jean-Pierre Kahan disait « Les mathématiques ont perdu le contact avec la population lorsqu'on a retiré des programmes, ce qu'on appelait à l'époque la cosmographie. » La cosmographie, c'était la Lune, le Soleil, les phases de la Lune, les saisons et des choses de cette nature, qui sont intrinsèquement mathématiques. C'est quand même la position d'un point dans l'espace, etc. Et la réponse de Jean-Pierre Serre a été directe, c'était « C'est normal, c'est pas des maths. » Et là, je trouve que cette réplique un peu directe et violente illustrait vraiment la difficulté de savoir de quel côté on se place. Est-ce que les mathématiques sont un jeu abstrait ou est-ce que c'est un jeu qui sert à mieux comprendre le monde ?
En tout cas, c'est une période charnière aussi pour une entrée dans une autre façon d'aborder les mathématiques. Pas forcément d'ailleurs en faveur des mathématiques. Hein.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous avez raison.
On va écouter un père qui s'appelle Père Cocagnac. Ah. C'est vous qui nous avez suggéré d'ailleurs cette petite chanson. On va l'écouter, ça dure 50 secondes et puis on va la commenter juste après.
Tu fais trop de mathématiques dans ta tête et dans ton cœur. Tu n'entends plus la musique ni la voix du vrai bonheur. Tu n'entends plus la musique ni la voix.
Opposition entre les maths et le Seigneur, le Père Cocagnac 64, Étienne Gis.
Alors, heureusement qu'on n'est pas à la télévision, parce qu'en plus, le Père Cocagnac, il faut voir comment il est.
Il avait sa guitare, c'est
avec
ça
avec la guitare, ouais, ça me faisait penser à Sœur Sourire.
Exactement.
Exactement.
Voilà. Qui avait le même look à peu près.
Ouais. Cette histoire, cette chanson illustre bien des a priori qu'on peut avoir contre les mathématiques.
Ah oui, c'était pas un promoteur des maths, lui. Hein.
C'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il avait l'impression que les mathématiques dessèchent. Ouais. Dessèche le cœur, alors que j'essaye dans ce livre de dire à peu près le contraire.
Eh bien, nous allons les réhydrater avec vous dans voilà. un instant, Étienne Gis, avec cet ouvrage, Ma petite histoire des nombres séchés, Odile Jacob.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Adolescente pendant la Révolution française, Sophie Germain grandit à une époque où les filles reçoivent peu d'éducation, encore moins dans des matières scientifiques. Mais en explorant la bibliothèque de son père, elle tombe sur un livre qui va la bouleverser. Un livre sur l'histoire des mathématiques.
Elle va découvrir l'histoire d'Archimède, qui, lors de l'invasion de Syracuse par les Romains 3 siècles avant Jésus-Christ, est bien tellement plongé dans ses réflexions mathématiques qu'il va se laisser mourir, assassiné par un soldat romain. Et là, elle se dit, une science qui est telle qu'on puisse en mourir, et bien, ça vaut le coup de l'étudier.
Christine Charton, elle est mathématicienne dans un documentaire de France Culture sur Sophie Germain, la génie oubliée des maths, Étienne Gis.
Ce qui est intéressant, cette anecdote sur la mort d'Archimède fait partie un peu du mythe, de l'histoire qu'on raconte en général, mais elle est à peu près fondée sur rien de sérieux. Ouais. C'est une espèce de mythe qui plaît beaucoup aux mathématiciens.
Vous en racontez plusieurs d'ailleurs dans le livre. Voilà, il y a plusieurs histoires que vous racontez.
Qui plaisent, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Après tout, pourquoi pas, s'il s'agit d'enflammer des adolescents ou même une jeune fille comme Sophie Germain.
Donc ça participe de la légende un petit peu.
Ça peut participer de la légende, oui.
En tout cas, c'est un sacré personnage, elle, Sophie Germain.
Tout à fait,
parce qu'elle a dû se battre pour trouver sa place dans le milieu scientifique masculin du début du 19e siècle.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'anecdote qui fait que, là pour le coup, c'est documentée. Elle a écrit au grand mathématicien Gauss en se faisant passer pour un homme. Et Gauss lui a répondu, ils ont eu un échange de courrier. Et puis, à un moment, Napoléon a envoyé ses troupes en Allemagne et elle a eu peur pour son ami Gauss. Et donc, elle a demandé à un général qu'elle connaissait d'aller protéger le pauvre Gauss qui risquait de se faire agresser par l'armée napoléonienne, et l'armée est arrivée, puis là, le poteau rose a été découvert, et puis Gauss a pris conscience que son interlocuteur était en fait une interlocutrice, et il a écrit une lettre absolument magnifique, exprimant le fait qu'une femme, c'est plus difficile encore pour elle de faire des maths, étant donné la société. Voilà, pour une fois, d'habitude, Gauss n'est pas très sympa, mais là, Gauss, il a été exceptionnel.
Ouais, il pensait avoir affaire à Antoine Auguste Leblanc, en l'occurrence, mais c'était Sophie Germain. Dans cette petite histoire des nombres, Étienne Gis, aux éditions Odile Jacob, vous accordez votre livre au féminin, justement. Pourquoi ?
Eh bien, parce que c'est un petit, pas très important, mais c'est un peu une petite.
Ça dit quelque chose quand même.
Remarque en disant que, en effet, il faut laisser une place égale pour les femmes et les hommes pour les mathématiques, qui ne sont par essence pas genrées normalement, oui. Et qui le sont de fait. Donc voilà, j'ai décidé d'écrire ce livre au féminin. Ça me fait quelques petites critiques.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous dit
Les gens trouvent que c'est un peu étonnant qu'en français, le masculin n'est pas le masculin, mais c'est le neutre. Enfin, un grand débat que je n'ai pas envie d'ouvrir maintenant parce qu'il n'a pas grand sens.
Par contre, il y a ce débat, effectivement, sur la place des filles en général dans les sciences et en mathématiques en particulier. Il y a plusieurs études très récentes qui montrent qu'il y a encore beaucoup d'inégalités à ce sujet et que cette inégalité commencerait à se creuser dès le CP. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que les filles, quand elles arrivent au CP, les petites filles, elles sont plus fortes que les garçons. Et au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, c'est les garçons qui les rattrapent.
C'est presque ça. C'est-à-dire que vous vous basez, je pense, sur les évaluations nationales qui sont faites au début de CP, en fin de CP et milieu de CE1, si je ne me trompe pas.
Et il y a eu un rapport en 2022 là-dessus.
Voilà. Et en fait, ce n'est pas exactement ce que vous dites, puisqu'au début, c'est pareil. Les garçons et les filles arrivent exactement au même niveau en maths, mais on voit en effet que la situation se dégrade très progressivement, et que les garçons l'emportent en fin de CP.
Alors, comment on l'explique, ça ?
Alors, comment on l'explique ? Je peux vous dire ce qu'on dit en général, mais je ne suis pas suffisamment sociologue. Je ne suis pas sociologue. Très clairement, c'est une influence de biais caché, de biais incompris. C'est d'autant plus étonnant qu'en CP, la plupart des maîtres sont des maîtresses. Et alors, il y a une question qui se pose de savoir si, oui ou non, la société fait penser que les garçons sont plus à même de répondre à des questions. Mais bien entendu, ce ne sont pas les enseignants qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est la société en général. C'est les cadeaux de Noël, les poupées pour les filles, et puis le petit chimiste pour les garçons.
La baisse du niveau des élèves en maths est générale, d'ailleurs, et inédite, d'ailleurs, selon là aussi les dernières enquêtes. La France enregistre un recul plus important que les autres États de l'OCDE. Pourquoi, là aussi, une baisse de niveau générale, Étienne Gis ?
Alors, là aussi, il faut être un peu précis. Quand on parle de la baisse de niveau en maths, il faut savoir à quel niveau on place. Est-ce qu'on parle à l'école primaire ? Est-ce qu'on parle au collège ? Est-ce qu'on parle au lycée ? Est-ce qu'on parle à l'université ? Je vais commencer par une bonne nouvelle. Moi, les doctorats que je vois ces jours-ci, les jeunes mathématiciens qui soutiennent des thèses, sont, selon moi, tout aussi brillants, sinon plus qu'à mon époque. Donc, il n'y a pas de souci majeur en ce qui concerne la recherche mathématique.
Mais chez ceux qui choisissent vraiment cette voie-là.
Ceux qui choisissent cette voie. En effet, par contre, du côté du collège, il n'y a aucun doute qu'il y a une espèce de baisse de niveau, à condition aussi de se mettre bien d'accord sur ce que ça veut dire le niveau. Et j'ai toujours un peu de mal avec des évaluations qui comparent le niveau d'un petit Français avec un petit Japonais, par exemple. Ils vivent dans des mondes différents, ils n'ont pas les mêmes façons de penser, de parler, d'écrire.
Il y avait un article récent dans le média The Conversation, on apprenait que les parents pouvaient influencer les résultats scolaires des enfants en raison de leur anxiété mathématique. Lorsque les parents s'impliquent dans les apprentissages de leurs enfants, c'est en général bénéfique, mais lorsqu'ils souffrent eux-mêmes d'anxiété, les choses se corsent, ils arrivent à le transmettre à leurs enfants. Ça peut être une part d'explication, ça ou pas, au problème ?
Franchement, c'est un phénomène tellement complexe qu'il y a tellement de solutions, tellement d'explications. Moi, je conseillerais aux parents de ne pas insister si jamais ça devient
C'est ça, pour ne pas transmettre le mauvais virus, en réalité.
Exactement.
Vous citez un poème de Victor Hugo dans votre ouvrage qui s'intitule « Le calcul, c'est l'abîme », qui est d'une incroyable noirceur, Étienne Gis. Il compare l'addition, par exemple, à une scolopendre informe. Il y a plein d'exemples comme ça, mais c'est le traumatisme que les littéraires peuvent avoir de temps en temps vis-à-vis des maths.
Certains littéraires, pas tous, heureusement.
Oui, enfin lui, c'est pas des moindres quand même. Est-ce qu'il y a un espoir de réconcilier, alors, au-delà même des poètes, la société avec les maths ou pas ? Parce que c'est aussi le but de cet ouvrage.
C'est le but de mon livre. J'essaye de dire qu'il faut réconcilier la société générale avec les mathématiciens.
Oui.
Mais le conseil que je donne, c'est surtout, c'est aux mathématiciens de faire un effort, et non pas
pour aller
gens,
vers le public.
Moi, je trouve que souvent, les mathématiciens sont un peu fermés à ces activités, et quand ils essayent de le faire, souvent, ils tentent d'expliquer des choses qui ne sont pas accessibles. Pas parce que les gens sont bêtes, simplement parce que pour les expliquer, il faudrait y passer des années. Donc moi, c'est pour ça, dans ce livre, j'aborde des choses qui sont, je crois, élémentaires.
mon cher Watson.
Vous êtes d'accord?
Hein, absolument. Et alors, pourquoi par exemple, l'émotion par exemple, le terrain émotionnel, ça peut être aussi une porte d'entrée pour les mathématiques, hein, c'est ce que vous dites.
Tout à fait.
Et de quelle façon on peut ressentir de l'émotion vis-à-vis des maths, hein?
Alors, par exemple, l'exemple que vous donniez de Ramanujan est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un rapport émotionnel avec les nombres.
Ce jeune Indien dont on parlait tout à l'heure.
Oui. Et puis, il y a aussi, j'en parle un peu dans mon livre aussi, ce que je trouve assez fascinant, je n'en suis pas récepteur, mais il y a le phénomène de synesthésie qui fait que certains ont une vision des nombres qui sont associés à d'autres sens. Ils les voient en couleur ou ils entendent des sons. Quand ils voient un chiffre 5, ils entendent une note de musique qui les accompagne. Donc il y a une espèce de connexion entre les nombres et leurs sensations.
Un Français sur 20 voit les nombres en couleur,
exactement,
par exemple.
Exactement, c'est très impressionnant.
C'est votre cas ou pas, d'ailleurs?
Non, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Je trouve que c'est très très impressionnant et j'essaye d'expliquer un tout petit peu ce que les neuroscientifiques disent à propos de ça.
Qu'est-ce qu'ils vous disent,
si
alors?
C'est encore un peu compliqué. Ouais. Donc il s'agit de comprendre pourquoi dans notre cerveau, les zones qui s'occupent des nombres et les zones qui s'occupent, par exemple, de la musique ou des odeurs ou de la couleur, ils ont des interactions entre eux. Et parce que les nombres, par exemple, je ne sais pas si vous savez, ils sont logés en bas à gauche de votre cerveau.
Ouais.
Donc il y a des choses de cette nature que les neuroscientifiques essayent de comprendre.
Pourquoi vous n'aimez pas le chiffre 6, Étienne Gis?
Alors c'est aussi une anecdote que je raconte au début de mon livre pour expliquer justement qu'on peut avoir des rapports soit amicaux, soit au contraire hostiles avec certains nombres. Quand j'étais en CE2, la maîtresse nous avait demandé d'apprendre par cœur la table de 6. Et puis je ne l'avais pas appris. Donc le lendemain, la maîtresse fait réciter dans la classe la table de 6 et il apparaît évident que je ne la connais pas. Et la maîtresse m'a puni. La maîtresse m'a dit, tu n'iras pas en récréation, tu restes dans la classe et tu apprends ta table de 6. Et là, j'ai été vexé contre moi-même, parce que j'aurais dû apprendre ma leçon, et très mécontent contre la professeure qui, publiquement, m'avait un peu humilié. Ça existe, vous savez, les profs de maths qui humilient les élèves, hein? Ça existe, je vois que vous êtes d'accord avec moi, voilà. Et donc je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate, et pendant la récréation, j'ai appris la table de 6, parce que c'est pas dur, hein? C'est pas dur, on peut l'apprendre rapidement. Et maintenant, je la connais très bien, ma table de 6, mais ce souvenir d'humiliation est encore dans ma tête. Donc j'aime pas le 6.
C'est ça. Et alors quand on pose la question aux Français, je crois que c'est une citez une enquête, il n'y a pas les sources, mais vous dites, si on cite le chiffre préféré des Français...
C'est le 7.
Le 7 arrive, mais largement devant tous les autres.
Allez savoir pourquoi.
C'est incroyable.
Oui. Mais je reviens sur le 6 si vous voulez.
Oui.
Vous savez qu'en maths, le chiffre 6 est appelé le chiffre parfait. Vous savez pourquoi?
Ben dites-le nous.
Le chiffre 6 est divisible par 1, par 2 et par 3. 1 plus 2 plus 3 égale 6. Autrement dit, 6 est la somme de ses diviseurs. Et depuis l'Antiquité grecque, on appelle ça un nombre parfait. Le suivant, c'est 28. Et on ne sait pas s'il en existe un qui soit impair. Donc voilà, cette perfection qui lui remonte à la philosophie antique. Hein.
Pourquoi on met une barre au milieu du 7? Pardon, je reviens au 7, moi, parce que c'est mon chiffre préféré, évidemment, Étienne Gis. Pourquoi on met une barre au milieu du 7 en France et pas aux États-Unis ou en Angleterre?
C'est une histoire qui est finalement assez simple. Quand on y pense, on comprend assez rapidement. Si on écrit un 7 à l'américaine, on met, comme nous, on fait un 7 sans barre. Bon. Mais pourquoi? C'est parce que le 1 américain, c'est une barre verticale.
Ouais.
Alors que nous, notre 1... Il y a d'abord un petit truc avant de descendre.
Qui pourrait ressembler à un 7.
Qui pourrait ressembler à un 7. Alors on a mis, je crois que c'est du date du 19e siècle, les instituteurs ont décidé d'ajouter une petite barre horizontale pour bien dissocier le 7 du 1, de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible.
Étienne Gis, vous êtes notre invité avec votre petite histoire des nombres. Et puis, amis auditrices, auditeurs, témoignez-vous aussi sur votre rapport, peut-être émotionnel d'ailleurs, aux mathématiques. On attend vos messages sur le site de la Terre au Carré.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Voilà, j'ai écrit un petit exercice au tableau. Il va falloir démontrer que MN et BC sont... Tiens, pousse ton sac, sont parallèles. Alors, qui se lance? Qui veut aller au tableau? Tiens, toi avec le pull rouge au deuxième rang, là, avec la capuche.
Moi?
Ouais, tu me rappelles ton prénom?
Jules.
Jules, allez, c'est à toi. Tu peux t'aider avec toutes les données qui sont écrites au tableau. Hein. Toutes les réponses sont là.
Voilà, on lui souhaite bon courage à Jules. À extrait d'un film qui s'appelle Un métier sérieux de 2023 de Thomas Lilti.
Très bon film.
Il y a pas mal de livres, de films, sur les mathématiques, Étienne Gis. Hein.
Tout à fait. Sauf que le film, c'était pas spécialement sur les mathématiques, c'était sur l'enseignement en général.
Mais il y en a eu de récents également. Oui, le théorème de Marguerite.
Le théorème de Marguerite est un très bon film.
Si mes souvenirs sont bons.
Qui exprime justement, je crois que j'ai jamais vu ça auparavant, qui aborde la question de l'émotion dans la recherche mathématique.
Ouais.
C'est très très intéressant. Une jeune fille qui travaille sur sa thèse, enfin, je ne vais pas vous raconter tout le film, hein, mais l'accroche est exceptionnelle puisqu'on voit le plaisir qu'elle a à faire de la recherche et on voit aussi le drame quand ça ne marche pas. Non, c'est un très bon film.
Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de communiquer aussi, le plaisir, on en parlait tout à l'heure, l'émotion.
Mais là, dans ce film, on parle de recherche mathématique, donc on n'aborde pas le contenu strictement mathématique de sa recherche.
Au sujet de théorème, vous parlez de celui le problème de Syracuse, pardon. Je m'emmêle les pinceaux entre le théorème de Pythagore et le problème de Syracuse. Donc parlons du théorème de Pythagore, qui est bien connu de tout le monde.
À peu près.
Mais c'est ça, mais vous dites qu'il a souffert finalement d'être mal compris.
Bah, c'est-à-dire le théorème de Pythagore, je ne sais pas, vous connaissez le théorème de Pythagore ?
Non, je suis nul, moi. Ne me posez pas de questions en maths parce que j'aurai des sueurs.
C'est assez récent parce que toute la population française est passée par là un jour ou un autre. Et puis, au bout du compte, quelques années plus tard, plus personne ne se souvient même de l'énoncé du théorème de Pythagore. Moi, je trouve que le théorème de Pythagore est une petite merveille, mais c'est une merveille uniquement si on comprend pourquoi il est vrai. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On demande aux enfants de répéter le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés des côtés. Mais on ne leur dit pas pourquoi.
Alors justement, vous dites pourquoi il est vrai.
Pourquoi il est vrai.
Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il
faut, c'est exactement ce qui me semble une question centrale, c'est qu'il faut communiquer aux enfants, aux adolescents, ce qu'est la vérité mathématique et comment on peut y arriver. Et moi, j'ai toujours une idée peut-être un peu folle, c'est de dire que quand un enfant a compris pourquoi le théorème de Pythagore est vrai, il s'approprie cette vérité comme étant la sienne. C'est pas celle du prof, c'est la mienne. J'ai compris pourquoi c'est vrai. Et peu de professeurs peuvent dire ça, puisque le professeur, dans d'autres disciplines, il faut qu'on fasse confiance au professeur, d'une manière ou d'une autre. Il enseigne des choses qui sont vraies pour d'autres raisons. Mais la vérité mathématique, quand elle est bien transmise...
C'est implacable, en fait.
C'est implacable. Et moi, une fois, j'avais écrit un petit article pour dire l'éblouissement pythagoricien. Parce que je me souviens très bien, moi, en classe de 4e, quand j'avais appris le théorème de Pythagore, mais vous croyez, je suis peut-être un peu ridicule, ça m'avait ébloui.
Mais ébloui par la
vérité que j'avais saisie de par moi-même.
Et ça vous a ébloui parce que vous êtes dit qu'on pouvait faire confiance, au fond, à une discipline
Qu'on peut faire confiance à soi-même.
Mais à cette vérité qu'elle nous raconte, c'est ce que vous
dites. Oui, cette
vérité,
je pouvais la développer moi-même, et voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu.
Donc il n'y a pas de fake news en mathématiques, ou c'est difficile en tout cas de...
Non, à ma connaissance, il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de choses fausses en mathématiques.
Alors, on parlait de problèmes tout à l'heure, les maths et les problèmes en mathématiques. Et
je vais vous couper tout de suite, puisqu'on est ici à France Inter. J'ai été enrôlé pour Les Petits Bateaux.
Avec Camille Cronier, bien sûr, que vous allez croiser bientôt.
Voilà.
Et d'ailleurs, il y a un épisode sur les problèmes.
Exactement.
Et ben, je l'ai écouté pour cette émission, figurez-vous. Les problèmes, justement, ce vocabulaire même des problèmes, ça, c'est un problème en soi en mathématiques,
Il fait peur. On dit pas un problème, on dit pas un problème d'histoire, on dit pas un problème de musique. Et pourquoi dit-on problème en mathématiques? C'est une source de stress, non? Vous croyez pas?
Alors, comment on peut exprimer les choses autrement? Alors, faudrait changer le mot? Parler d'autre chose que de problème?
Un défi?
Ouais.
Une course ou une compétition, si vous voulez, mais problème me semble chargé de sens terrifiant.
Donc c'est des énigmes à résoudre, il faut le prendre sous un angle plus amusant, plus ludique. Aimez le côté aventurier. Finalement.
L'aventure, voilà. Ouais.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de problèmes encore non résolus en maths?
Plus on avance et plus il y en a.
Ah bon?
Chaque fois qu'on résout un problème, et heureusement ça arrive souvent, les mathématiciens résolvent des problèmes, c'est un peu leur métier, et chaque fois qu'ils résolvent un problème, ils ouvrent une porte pour un territoire nouveau, et ils trouvent de nouveaux problèmes qui sont encore plus intéressants.
Pourquoi vous parlez du problème de Syracuse, alors Étienne Gis?
Le problème de Syracuse est un des rares
qui fait référence à une ville américaine.
Voilà, au nord-est des États-Unis. Donc c'est un problème qui a la qualité qu'on peut l'expliquer facilement, et qui a la qualité que personne ne connaît la réponse. Mmh. Alors voici le problème, c'est on prend un nombre entier comme on veut, par exemple, je ne sais pas, 5. S'il est impair, comme c'est le cas pour 5, on le multiplie par 3 et on rajoute 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16.
Ouais.
S'il est pair, comme 16, on divise par 2.
Okay.
Ça fait 8.
8.
Et 8 est encore pair, donc on divise par 2, ça fait 4. On divise encore par 2, ça fait 2. Et on divise encore par 2, ça fait 1.
Ouais.
Et la conjecture, comme on dit, le problème, consiste à démontrer que quel que soit le chiffre qu'on part, dont on part au début, celui que vous voulez, finalement, tôt ou tard, on arrivera à 1. Alors, personne ne sait faire ça. Hein, ça, c'est un peu un problème qui...
Personne ne sait le faire ou personne ne sait l'expliquer ?
Personne ne sait le démontrer.
D'accord.
On pense que c'est vrai, ça a été vérifié jusque des nombres gigantesques, mais on n'a pas la certitude que c'est vrai. Et pourtant, je peux vous dire que, comme c'est un problème qui s'énonce facilement, je reçois, vous ne pouvez pas savoir le nombre de propositions de résolution que je reçois par courrier, qui sont malheureusement toutes fausses.
Et vous essayez de le résoudre aussi ou pas ?
Moi, j'ai essayé un peu, mais pas beaucoup, parce que c'est un problème, je peux vous dire que je ne suis pas le premier à y réfléchir, et donc moi, je n'aime pas aller là où tout le monde a été.
Et vous allez où alors ?
Dans d'autres endroits.
Mais lesquels ?
Là, c'est de la, ça, c'est de la théorie des nombres. Ouais. Juste un point quand même. On se dit, mais à quoi ça sert ce problème ? Pourquoi c'est... En fait, vous voyez, c'est comme un algorithme, un programme d'ordinateur extrêmement simple. Si c'est pair, on fait ça, si c'est impair, on fait ça, et puis on regarde ce qui se passe. Quand on écrit un programme d'ordinateur, on écrit quelques règles initialement, et puis on lance l'ordinateur, et on se dit, est-ce que ça va arriver à un résultat ? Donc c'est une question d'informatique théorique. Est-ce qu'un programme donné se termine ? C'est une question qui a préoccupé les logiciens pendant tout le XXe siècle.
Allez, on passe aux questions. Gilles nous dit, l'introduction des mathématiques modernes était-elle une erreur et ont-ils empêché certains élèves de comprendre les mathématiques traditionnelles ?
Réponse, oui, c'était une erreur.
Bon.
Je peux être
bien.
Un peu plus précis
oui,
si vous
voulez. Si vous voulez, ouais.
L'erreur principale, selon moi, c'est que ça n'a pas été préparé auprès des professeurs. L'idée était excellente, hein, ça correspondait aux années 60-70, et les professeurs n'ont pas été préparés pour ce changement radical. Moi, je me souviens, c'était en classe de première, je peux vous dire, mon prof, il n'y comprenait rien.
Ce qui est quand même problématique quand vous devez l'enseigner vous-même.
Exactement.
Hein. Arnaud demande, est-ce que vous pensez que la désaffection pour les maths soit en lien avec la diminution depuis les années 2000 des heures de physique au lycée qui permettent l'application directe des maths et aident à leur donner du sens ?
Réponse, oui.
Là aussi ?
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les maths se dessèchent si on les déconnecte du réel et de la physique.
Samantha nous dit, ma fille est en CE1, elle a une facilité déconcertante pour les mathématiques, elle adore cette matière, c'est une chance. Que conseillez-vous pour maintenir cet intérêt dans les années à venir en complément du cursus scolaire ?
Lire mon livre.
D'accord, très bien, vous vendez votre ouvrage, ok, mais est-ce qu'on peut donner une autre réponse qui coûtera moins cher ?
Non, mais je veux dire, en effet, aller à la bibliothèque. D'une certaine manière, il y a dans les bibliothèques, beaucoup de collèges maintenant ont des bibliothèques bien fournies, et lire et lire encore.
Arnaud nous dit en seconde, j'ai eu un vrai choc esthétique en maths avec la notion de transitivité, un peu comme devant un tableau devenu scientifique, j'ai demandé à mes collègues si ça avait été leur cas, et effectivement, quasi chacun avait eu son dévouement.
C'est intéressant parce que transitivité... On n'en parle plus trop maintenant.
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ?
C'est une relation est dite transitive si A plus petit que B, B plus petit que C, alors A plus petit que C. Franchement, c'est un peu du...
Il n'y avait pas transitif direct ou transitif indirect, non ?
Non,
c'est pas du tout la même chose. Bon, d'accord.
Okay. C'était quelque chose dont on abreuvait les élèves du temps des mathématiques modernes, justement.
Très bien.
Où on leur faisait croire que la vérité mathématique, que l'essence des mathématiques était dans ce genre d'abstraction. Et... Moi, je suis pas d'accord.
Bon, très bien, vous avez le droit. Sylvie nous dit, je me rappelle de mon émotion le jour où on a fait le cours sur les intégrales. J'allais enfin savoir à quoi correspondait ce signe intrigant comme un hiéroglyphe. J'allais enfin accéder à un univers inconnu et fascinant.
Eh ben, la raison.
Ouais, y a
vous savez à quoi ressemble le signe intégral ?
Non, je m'en souviens plus.
Monsieur, vous devez savoir.
C'est quoi, attendez, le signe intégral, c'est quoi ?
C'est comme un S, mais très allongé.
Ah oui, non, je ne l'avais pas du tout. Hein. Vous l'aviez, Camille Cronier ou pas ?
Non, pardon. Mais
merci. Merci de me soutenir dans cette épreuve.
J'avais deux en maths, donc ça ne va pas.
Ah là là.
Gilles nous dit, l'introduction des mathématiques modernes était-elle une erreur ? Je vous ai déjà posé la question, donc on va terminer là-dessus, Étienne Gis, en renvoyant sur votre ouvrage. Ça s'appelle « Ma petite histoire des nombres », c'est chez Odile Jacob. Et alors, pour le coup, c'est accessible pour plein de gens. Hein.
Bah, je l'ai écrit dans ce but. Je pense qu'en tout cas, la première moitié, je pense qu'il est accessible. je peux le dire à tout le monde.
Et après, ça se corse, mais c'est pour les gens qui aiment bien les maths.
Voilà, après, bon. C'est un tout petit peu plus corsé, mais un petit peu plus.
Et on apprend plein d'histoires très sympathiques. Merci beaucoup, en tout cas, Étienne Gisse, d'être venu nous parler mathématiques. Et donc, vous avez Madame Petit Bateau que vous avez devant vous, puisque vous avez parlé problème ensemble il y a quelques temps. Et merci à Jean-Philippe Verret qui a préparé ce dossier. Ma petite histoire des nombres, c'était chez Odile Jacob. Et donc Emma Bouvier, pardon, pour ce dossier. Jean-Philippe Béret, lui, il était aux questions pour
voilà,
aujourd'hui.
Il me semblait.